Bienvenue sur le podcast Marketing Mania, pour la première fois disponible à la fois en audio sur le podcast, sur iTunes, Spotify, Anchor, toutes les plateformes que vous voulez. Comme toujours, le lien c'est marketingmania.fr/podcast pour la version audio, mais aussi pour la première fois en vidéo sur la chaîne YouTube Marketing Mania Daily. Aujourd'hui, on fait une FAQ parce que j'avais prévu normalement d'enregistrer une interview et mon invité m'a planté et je me suis dit bah non, je ne vais pas me laisser avoir comme ça. Je ne vais pas laisser un trou dans mon calendrier de publication et je vais faire une petite FAQ. Donc, j'ai été chercher des questions qui sont pour certaines un peu anciennes. Certaines de ces questions datent d'il y a un an ou même plus. C'est des questions qu'on m'avait posées pour des précédentes FAQ auxquelles je n'avais pas eu le temps de répondre et que je vais traiter maintenant. Comme toujours, si vous avez envie de poser votre question pour une FAQ du podcast Marketing Mania, vous pouvez envoyer un email à l'adresse faq@marketingmania.fr. Votre question ne sera toujours pas toujours traitée immédiatement. Mais généralement, si votre question est intéressante, il arrivera bien un jour où un invité va me planter, je vais retrouver votre question et je me dis, bah tiens, ce gars-là m'a sauvé la vie avec sa question extrêmement pertinente. Sans plus de transition, on va parler des questions du jour. On va parler aujourd'hui de comment faire l'autopsie d'un projet qui a planté. On va parler ensuite des formateurs en ligne et est-ce qu'ils risquent de se faire ubériser avec des plateformes de formation comme Udemy. On va parler de comment gérer les emails pendant un lancement pour ne pas saouler votre audience. On va parler de comment est-ce que vous pouvez passer d'une consultation gratuite avec un client potentiel à un coaching payant. Et finalement, on va parler de comment convaincre les gens de faire de l'écologie. La première question nous vient de Ulysse et c'est une question posée en audio. Merci Ulysse pour la petite touche sympathique de l'audio.
Salut Stan, j'ai vu que ta vidéo sur Animal Crossing avait performé un peu moins bien qu'à l'habitude. J'ai vu que tu avais essayé plusieurs choses pour tenter de remédier à la situation, comme changer la miniature, le titre. Et ça m'a fait me demander, c'était quoi ton processus exactement pour faire l'autopsie d'un projet? Donc quand il y a quelque chose qui ne répond pas à tes attentes, qui ne se passe pas comme tu voudrais, c'est quoi les étapes que tu prends pour essayer de comprendre ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné? Merci de ta réponse, j'adore ce que tu fais.
Donc la question plus large à se poser ici, c'est comment est-ce qu'on va apprendre de ces échecs? Ce que font la plupart des gens, c'est se dire, bah, tiens, ce projet, il n'a pas marché, c'est dommage, ça me saoule, je suis dégoûté, j'ai même plus envie d'y penser. Et en fait, ils ne vont pas vraiment essayer de comprendre le pourquoi de leur projet a marché, ou ils vont faire la croix sur l'ensemble du projet. Ils ont essayé de lancer une formation en ligne, la formation en ligne n'a pas marché. Bon, ben, ça ne marche pas, je vais changer de domaine, je vais arrêter de faire des formations en ligne. En réalité, il faut comprendre qu'un projet, il peut échouer pour différentes raisons. Et un projet va réussir selon un ensemble d'hypothèses. Donc, quand vous allez lancer un projet, vous allez établir un ensemble d'hypothèses qui, si elles sont vraies, fera que votre projet soit un succès. Et parfois, on ne va pas faire ces hypothèses de manière explicite, on va les faire de manière implicite, sans vraiment y réfléchir, mais ça vaut le coup d'y réfléchir et d'essayer de les expliciter. Par exemple, si on lance une formation en ligne, il y a un certain nombre d'hypothèses qui sont faites et qui sont nécessaires d'être vraies pour que le produit fonctionne. Par exemple, on a une hypothèse qui est « mon audience a un besoin ». On a une hypothèse qui est « mon audience est prête à dépenser de l'argent pour résoudre ce besoin ». On a une hypothèse qui est « mon audience a de l'argent à dépenser ». On a une hypothèse qui est « je suis crédible auprès de cette audience ». On imagine que bah, mon offre est la bonne. On imagine que je suis positionné sur le bon marché. Maintenant, si votre produit ne marche pas, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Ça peut être différentes hypothèses qui ne sont pas vérifiées ici. Donc si vous prenez l'idée que le projet n'a pas marché et d'un coup vous abandonnez complètement l'ensemble de l'idée, et bien en fait, si ça se trouve, il y avait des hypothèses là-dedans qui étaient vraies et que vous auriez pu garder et que vous auriez pu valider. Mais si vous abandonnez tout d'un coup, c'est un petit peu comme si vous faites une expérience scientifique et vous changez 50 variables. Théoriquement, si vous faites une expérience scientifique, vous les donnez par exemple à une personne le médicament A et à une personne le médicament B et gardez tout le reste exactement identique pour savoir si le médicament A ou le médicament B est le plus efficace. Maintenant, si vous donnez juste à une personne le médicament A sans avoir d'autres hypothèses qui sont testées ou d'autres variantes ou alors que vous changez 50 choses différentes, vous le faites changer de régime, vous lui donnez un nouveau médicament, vous le faites changer de cycle de sommeil, vous lui donnez tout un tas de médicaments différents, maintenant d'un coup vous ne sauriez pas si votre médicament fonctionne ou pas ou dans quelle situation est-ce qu'il fonctionne. Donc l'idée c'est de pouvoir isoler les variables et de comprendre très précisément quelle est l'hypothèse ici qui était vraie ou quelle est l'hypothèse qui était fausse. Donc si vous avez lancé encore une fois une formation en ligne et que ça n'a pas marché, ça serait con d'abandonner directement l'ensemble de l'idée, l'ensemble de la formation. Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être viables ici pour comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Par exemple, si vous voyez que vos concurrents cartonnent sur ce marché, ça vous dit qu'il y a un besoin, ça vous dit que les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour résoudre ce problème et qu'il y a un marché qui a de l'argent. Donc, il y a différentes hypothèses qui peuvent faire que bah, vous n'avez pas marché là où vos concurrents fonctionnent. Ça peut par exemple être que vous n'êtes pas assez différencié, vous n'êtes pas assez crédible sur ce marché. Un autre exemple, c'est si vous avez une audience et vous leur envoyez des emails de promotion pour votre produit et personne ne clique sur vos emails. Là, c'est un signal assez fort que le problème, c'est votre offre. C'est probablement pas le prix, c'est probablement pas nécessairement votre audience, c'est simplement que votre offre n'est pas cohérente avec ce que l'audience recherche ici. Donc là, vous pourrez changer l'offre, changer l'accroche, changer la promesse, essayer de trouver un autre moyen d'accrocher l'attention des gens. Un autre exemple, c'est que vous pourriez par exemple recevoir beaucoup de questions, mais les gens derrière n'achètent pas. Donc ça vous dit que les gens ont un intérêt, ils sont intrigués, ils vous posent des questions, ils font l'effort de vous poser des questions, ce qui vous montre qu'ils ont un certain besoin et qu'ils pensent potentiellement que vous pouvez le résoudre, mais vous n'arrivez pas derrière à les convaincre. Ça peut pouvoir dire par exemple que votre pitch n'est pas assez crédible ou que vous n'êtes pas assez bon pour répondre aux objections qui sont soulevées dans ces questions. Et donc peut-être que vous pouvez tester une garantie, peut-être que vous pouvez tester une offre d'essai, peut-être que vous pouvez tester un plus petit produit pour faire rentrer les gens et leur donner confiance dans votre produit. Là, encore une fois, vous avez identifié que certaines hypothèses étaient vraies, qu'il y a vraiment un besoin, qu'il y a vraiment une demande, que les gens sont vraiment chauds, mais peut-être que le problème, le blocage se trouve plus tard. Si vous avez des gens qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, ça peut vouloir dire différentes choses. Ça peut vouloir dire, par exemple, que vous n'attirez pas le bon marché, vous n'attirez pas la bonne audience. Ça, c'est notamment le cas si vous avez d'autres concurrents sur le marché qui arrivent à vendre. Ça peut vouloir dire peut-être que votre prix est trop élevé par rapport à votre marché, même si ça, c'est toujours assez dangereux parce que souvent, les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas d'argent, vous essayez de baisser votre prix, ils n'ont toujours pas d'argent et si votre produit coûte 5 euros, ils n'ont jamais d'argent. Donc, ça peut être un élément un peu risqué, mais c'est un point à prendre en compte. Ça vous dit que les gens ont un certain besoin, mais que pour une raison X ou Y, la valeur que vous leur proposez n'est pas à la hauteur du prix que vous lui demandez. Donc, est-ce que c'est qu'ils ont vraiment très peu d'argent et qu'il faut trouver une autre manière de les facturer? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas attiré la bonne audience et il faut changer de positionnement? C'est le cas, par exemple, ici, si vous faites de la séduction, par exemple, et vous positionnez votre site de manière à attirer beaucoup d'étudiants. Moi, c'est en partie un problème que j'avais eu à mes débuts dans le web marketing, quand j'avais un site qui s'appelait Séduction Academy, parce que j'étais jeune, je faisais du contenu qui était axé autour de mes préoccupations, et finalement, une audience plus âgée, si vous aviez 35 ans et que vous tombez sur mon site web, ça n'allait pas vous parler, parce que je parlais beaucoup plus de relations un peu plus simples, beaucoup plus d'aller dans des bars, dans des boîtes, et moi-même aujourd'hui, si je revoyais mon contenu, je me dirais que ça ne me parlerait pas du tout. Donc au final, par la manière dont j'ai accès à mon contenu, j'allais parler à une clientèle plus jeune, il s'avérait que j'arrivais à vendre, mais j'aurais probablement pu vendre plus cher si j'avais été sur une clientèle plus élevée. Donc par exemple, ce n'était pas facile pour moi à cette époque de vendre des coachings à 3000 euros. Peut-être que mes clients avaient un besoin, mais ils avaient moins de budget. Alors que si vous vendez à des gens, à des hommes en l'occurrence, qui ont la trentaine, 35 ans, qui sont dans des bonnes positions professionnelles et qui cherchent à trouver l'amour, eux, ils auront le budget de payer les 3000 euros. Donc ici, c'est une question de, tiens, peut-être que mon offre de coaching haut de gamme ne fonctionne pas sur cette audience. Évidemment, moi, je vendais à l'époque plutôt des formations qui coûtaient entre 70 et 200 euros, mais j'allais rarement bien au-dessus, ce qui fait que j'étais en cohérence avec mon audience, mais j'aurais découvert probablement mon hypothèse de « je peux monter beaucoup plus haut » n'aurait pas été validée. Donc, reparlons maintenant de ma vidéo sur Animal Crossing. Sur une vidéo comme ça, c'est assez facile d'identifier ce qui a pu se passer et pourquoi est-ce que la vidéo n'est pas devenue virale. Donc, c'est une vidéo qui a une performance solide. Elle a fait déjà 60 000 vues, mais c'est une vidéo qui a surtout tourné sur des gens qui me connaissaient déjà, sur mon audience. Donc, c'est une vidéo qui a bien plu aux gens qui me connaissaient déjà. Elle n'est pas devenue virale. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle n'est pas devenue virale là où certaines de mes autres vidéos récentes ont fait 2 fois, 4 fois, quasiment 10 fois plus de vues. Si on prend l'exemple de ma vidéo sur le coronavirus qui a fait quasiment 500 000 vues. Donc, il y a 3 choses potentielles qui peuvent valider ou qui peuvent être des hypothèses que je fais sur la vidéo et qui n'ont pas été validées. Le premier, c'est le sujet. Je vous dis que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de monde. Peut-être que finalement, ce n'est pas un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Deuxième hypothèse, c'est le titre et la miniature. Ça se trouve, mon angle que je pensais extrêmement intéressant et intriguant, ça se trouve, mon angle, il n'était pas bon. Troisième hypothèse, c'est que je pensais que j'avais fait une bonne vidéo, que les gens allaient regarder, et peut-être qu'en fait, je me suis trompé, la vidéo n'est pas très intéressante, et donc les gens ne restent pas pour la regarder, j'ai un mauvais temps de visionnage, et donc YouTube ne recommande plus ma vidéo. L'avantage sur YouTube, c'est que toutes ces hypothèses-là peuvent être confrontées avec de la data. Donc par exemple, j'avais fait une vidéo sur Gillette, ma première vidéo sur Gillette, qui s'appelait « Grosse erreur marketing, pourquoi la nouvelle vidéo de Gillette fait scandale ?» Et c'est une vidéo qui n'avait pas marché quand elle est sortie pour la première fois. Et en la revoyant, et j'avais quelques commentaires sur la miniature qui n'était pas extrêmement claire, en la revoyant, je me dis la miniature n'est pas claire vue sur un téléphone elle est un petit peu floue. Donc, j'ai changé l'image qui était en miniature. Donc, sur l'image à l'origine, j'avais mis dans la vidéo de Gillette que je critiquais, à un moment donné, vous avez une file de mecs qui sont tous sur leur barbecue. Et c'est ça que j'avais pris comme image emblématique de la vidéo parce que je trouvais que c'était une image à la fois assez frappante avec des gens qui étaient alignés avec leur barbecue et à la fois assez évocatrice de la vidéo et ce qui ne marchait pas avec cette vidéo. Le problème, c'est que sur la miniature, on ne comprenait pas trop en fait ce qui était censé être sur cette image. Donc c'était une erreur de miniature de ma part. Je me suis dit peut-être que la miniature ici ne fonctionne pas. Je pense que la vidéo devrait performer beaucoup mieux que ce qu'elle fait. Elle ne démarre pas bien. Et donc, j'ai changé la miniature. Et en fait, le seul élément que j'ai changé ici, c'est cette image. J'ai gardé le même texte et le même titre. J'ai changé l'image et j'ai mis le gros plan du visage d'un enfant. D'un coup, j'avais le gros plan du visage d'un enfant et à côté, grosse erreur marketing. Il y avait un contraste intéressant entre le visage de l'enfant et l'erreur marketing. Et c'est une vidéo qui, en gros, du jour au lendemain, s'est mise à exploser et devenir virale. Il y a une inflexion de la courbe. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui a plus de 300 000 vues. Donc ici, en l'occurrence, j'ai pu identifier l'hypothèse de... c'est la miniature de la vidéo qui flanche. J'ai testé une autre miniature et ça a décollé. Donc sur Animal Crossing, quand j'ai vu que la vidéo faisait une performance honorable, mais qu'elle ne devenait pas virale et qu'elle n'allait pas faire une performance qui était exceptionnelle pour ma chaîne, j'ai testé la même hypothèse. En l'occurrence, j'ai changé plus de choses, puis j'ai changé non seulement le texte de la miniature, j'ai gardé la même image parce que je ne pensais pas que l'image de miniature était problématique, j'ai le texte de la miniature et le titre de la vidéo pour changer légèrement d'angle en me disant peut-être que mon angle ici sur la vidéo n'est pas bon et peut-être que le fait que je mentionne directement la pandémie dans le titre de la vidéo n'est pas un bon angle parce que j'avais écrit comment Animal Crossing est devenu le grand gagnant de la pandémie. Je me dis peut-être que les gens on en marre d'entendre parler de la pandémie ou peut-être que finalement l'angle de dire que Animal Crossing a bien marché pendant la pandémie est une réponse assez évidente qui est de dire les gens ont eu beaucoup plus de temps donc ils ont joué à Animal Crossing, ce qui n'est pas si intriguant que ça. Donc j'ai changé le titre de la vidéo pour taper sur un angle un petit peu différent. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait ce changement de titre et d'angle n'a pas fait de différence. Donc le problème n'était pas l'angle de la vidéo, c'était pas l'angle de la miniature qui allait faire une grande différence. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la vidéo n'est pas bonne en fait, que la vidéo est assez ennuyeuse, les gens ne restent pas. Donc ici, c'est encore une fois, c'est facile à tester. Je vais aller voir la durée de visionnage de la vidéo et je vais la comparer avec la durée de visionnage standard. Donc en l'occurrence, c'est une vidéo qui a une durée moyenne de visionnage de 10 minutes 39 secondes. Donc les gens restent en moyenne 53% de la vidéo. Ce qui est, pour les gens qui sont un peu sur YouTube, une excellente durée de visionnage, c'est une excellente performance, c'est une vidéo qui est très accrocheuse, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il me reste donc finalement plus qu'une seule alternative qui est le sujet, en fait, c'est Animal Crossing. Et donc, je vais aller voir mes chiffres et je vais découvrir que ma durée de visionnage est bonne, mon taux de clic est bon, donc là, je suis sur un taux de clic d'environ 5% sur cette vidéo, donc c'est un taux de clic qui est solide sur une vidéo, mais YouTube ne propose pas la vidéo à tant de monde que ça. Pourquoi ? C'est parce que YouTube pense que ce sujet ne va pas intéresser les audiences qui me suivent ou qui sont propices à regarder des vidéos marketing mania. Donc là où YouTube a pu facilement trouver une audience bien au-delà de la mienne sur un sujet comme le coronavirus, sur les théories du complot ou sur comment fonctionnent les arnaques, ma vidéo sur Better Call Saul, ici YouTube n'arrive pas à trouver des audiences adjacentes qui sont intéressées par ça. Donc ce que ça me dit, c'est que c'est pas que YouTube a décidé que c'était pas bien, c'est que YouTube l'a testé, mais finalement, il n'arrive pas à l'étendre. Donc, si les gens ne connaissent pas Marketing Mania, ils ne cliquent pas sur ces vidéos. Et donc, du coup, il y a moins de gens à qui YouTube peut proposer cette vidéo. Donc, pour creuser plus profondément dans cette question de pourquoi est-ce que le sujet d'Animal Crossing ne fonctionne pas, je vois deux angles potentiels. Le premier, c'est que les sujets de jeux vidéo ne fonctionnent pas sur ma chaîne. Donc, la seule précédent que j'ai pour comparer, c'est le jeu vidéo Fortnite, qui avait fait un démarrage correct sur ma chaîne. Ce n'était pas aussi gros que je l'avais imaginé à l'époque. Ça avait moins bien marché qu'une vidéo qui était adjacente, comme par exemple PNL. Mais ça avait fait une performance qui était honorable, en tout cas pas si anormale que l'avait fait Animal Crossing. Donc potentiellement, le gaming, ce n'est pas mes meilleurs sujets. Ça ne marche pas aussi bien que d'autres sujets, que des sujets par exemple sur des films ou apparemment sur de la musique, comme dans le cas de PNL. Mais ça fonctionne de manière honorable. L'autre axe et la grande différence entre un Fortnite et un Animal Crossing, c'est potentiellement que le sujet est trop féminin pour ma chaîne. Il s'avère que, quel que soit le sujet dont je parle, environ 85% des gens qui vont regarder Marketing Mania sont des hommes. Il s'avère que Animal Crossing, c'est un jeu qui parle aussi pas mal à un public féminin. Il est possible que du coup, YouTube n'arrive pas à trouver un recouvrement entre des gens qui s'intéressent à Animal Crossing et qui regardent des vidéos sur Animal Crossing sur YouTube et les gens qui regardent Marketing Mania. Encore une fois, c'est une hypothèse ici sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que parler d'Animal Crossing, ce n'est pas une manière pour moi de faire des vues. Donc, ce que je pourrais tester pour le futur là-dedans, c'est de parler de gaming sous un angle beaucoup plus masculin. Je vais peut-être faire une vidéo sur, je ne sais pas, un Call of Duty ou un GTA, etc. pour comprendre si c'est vraiment le gaming qui blesse ou si c'est le type de jeu, en l'occurrence, qui pose problème. Plus largement, sur la vidéo d'Animal Crossing, je dirais que ce n'est pas non plus une catastrophe industrielle. C'est une vidéo qui a fait 60 000 vues. À mon avis, elle a un potentiel de long terme. C'est ce type de vidéos qui ne deviennent pas virales tout de suite, qui ont tendance à faire des vues sur le long terme. Et c'est une vidéo qui fera son petit chemin pour arriver à 200, 250 000 vues sur les 12 prochains mois. Donc, ça reste honorable. Après, c'était très clairement une déception pour moi en termes de vues, même si je sais que les gens qui l'ont regardé l'ont bien apprécié. Donc, même si ce n'est pas une vidéo qui m'a rapporté beaucoup de nouveaux abonnés, pour les gens qui sont abonnés chez Marketing Mania, ils ont eu une vidéo dont ils étaient très contents. Et ça, finalement, ça reste un objectif atteint. La question suivante nous vient de Thor qui nous demande « Penses-tu qu'on se dirige vers une ubérisation des formateurs en ligne avec des plateformes comme Udemy ? Si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger ?» La réponse, c'est non, et je ne pense pas que les formateurs en ligne risquent de se faire ubériser. La différence entre une plateforme comme Udemy et une plateforme comme Uber, c'est que tu te fiches complètement de quel taxi vient te chercher. C'est totalement interchangeable de savoir quel conducteur va venir te chercher. Au contraire, tu ne te fiches pas du formateur qui va venir te former. Donc, il y a un effet dans le domaine de la formation, il y a un effet de célébrité, il y a un effet d'attachement, il y a un effet de marque. Et les formateurs populaires ne vont pas vouloir être complètement interchangeables, ils vont vouloir avoir leur business et avoir le contrôle. La différence, c'est qu'un chauffeur de taxi n'a pas non plus envie d'être interchangeable, il a aussi envie d'avoir le contrôle. Le problème, c'est que le public derrière n'a pas de demande particulière pour ce chauffeur de taxi. Donc, n'importe quel chauffeur de taxi peut le remplacer. Donc ici, il faut réfléchir aux différents modèles d'industrie et qui possède le pouvoir dans différentes industries. Donc si on compare par exemple à l'industrie du cinéma, le formateur, ça serait l'équivalent d'un acteur. Donc il fut un temps à Hollywood où ils avaient essayé de mettre en place le système des studios, qui était un système extrêmement industriel, où le studio allait commander à une personne de faire le script, une personne de faire le réalisateur, et allait mettre des acteurs dessus. Et seulement tout le monde était salarié du studio, et faisait son travail, avait son job, était payé un salaire à la fin du mois, mais c'était tout ce qu'ils avaient à faire. Ils n'avaient pas de pouvoir, ils n'avaient pas d'effet de levier, ils n'avaient pas d'effet de négociation. Il n'y avait pas d'acteur qui pouvait demander 10 millions pour faire un rôle, parce que bah non, c'était, on t'a dit que tu fais ça et tu as ton salaire. Tout le pouvoir était dans le studio. Ce qu'on a découvert au niveau de Hollywood, c'est que ce système-là ne fonctionnait pas vraiment en réalité, et que ça fonctionnait mieux si on avait un effet de célébrité et les acteurs ont réalisé qu'ils avaient ce pouvoir et qu'à partir du moment où ils étaient connus, où ils avaient fait des films qui étaient des blockbusters, où ils avaient une relation avec l'audience, ils avaient le pouvoir de mettre des gens dans les salles. Ils avaient le pouvoir de faire des films. Si vous prenez un film comme The Revenant, par exemple, le film où Leo DiCaprio se retrouve dans la forêt, le fameux film où il se retrouve en tête-à-tête avec un ours, c'est un film qui est impossible simplement à financer. C'est un film qui est impossible à créer et c'est impossible de le marketer, c'est impossible de le vendre au public si vous n'avez pas Léo DiCaprio. Donc Léo DiCaprio devient essentiellement le point essentiel, complètement impossible à remplacer de ce film. Et il n'existe qu'une poignée d'acteurs qui ont ce niveau d'influence et qui sont capables de faire des films à cette échelle. Donc l'acteur découvre qu'il est la marque. L'acteur découvre qu'il a du pouvoir, qu'il n'est pas interchangeable, qu'il n'est pas remplaçable. Et donc il va se positionner dans une mesure où il peut choisir ses films, il peut avoir des pourcentages dessus, il peut être payé très cher. Pourquoi ? Parce qu'il sait que s'il demande 50 millions pour faire ce film, peut-être pas 50 millions, peut-être que c'est trop cher pour un film, s'il demande 10 millions pour faire ce film, eh ben, ils ne peuvent pas trouver quelqu'un d'autre d'équivalent qu'il fera pour un million. Non, il n'y a personne d'autre qui peut remplacer Leonardo DiCaprio. Donc si vous regardez le grand agrégateur dans le domaine du cinéma, c'est Netflix. Netflix, il n'a pas ubérisé le cinéma. Il n'a pas rendu les réalisateurs et les acteurs interchangeables. Au contraire, l'arrivée de Netflix a encore augmenté l'impact et le pouvoir des réalisateurs et des acteurs qui sont célèbres. Si vous prenez par exemple le film The Irishman de Scorsese. Scorsese, c'est un film qu'il essayait de faire depuis des années. Il essayait de le faire financer par son studio qui était, il me semble, Paramount. Il avait demandé 100 millions à Paramount pour faire ce film et on lui a dit non, c'est trop cher, tu ne peux pas le faire. Il a été voir Netflix, Netflix lui a donné les moyens, donc Netflix lui a donné 125 millions pour faire Irishman et en plus ils l'ont monté à 160 millions, c'est ce qui a coûté le film au final, 160 millions de dollars pour faire ce film et ils lui ont donné une autonomie totale. Pourquoi ? Parce que Netflix sait que Scorsese, il n'est pas interchangeable. Netflix a une base d'utilisateurs énorme sur lequel ils peuvent faire levier pour rentabiliser ce film. Et donc, ça a du sens. Donc, plus on va aller sur de l'Internet, plus on va aller sur des moyens de distribution qui sont faciles, plus on va concentrer de pouvoir dans les acteurs célèbres, dans les réalisateurs célèbres, dans les marques célèbres, dans les propriétés intellectuelles comme l'univers Marvel, Star Wars, etc., qui ont de plus en plus de valeur. Et dans le domaine de la formation, bah plus le formateur individuel va concentrer du pouvoir. Si vous regardez, il y a 50 ans, un professeur individuel avait relativement peu de pouvoir parce qu'il devait être affilié à une institution qui allait déterminer s'il allait avoir des élèves, qui allait déterminer s'il allait avoir un salaire et qui allait déterminer à combien d'élèves est-ce qu'il pouvait enseigner. Donc même un professeur totalement star au sommet de son domaine allait peut-être gagner, 3 à 5 à 10 fois plus qu'un professeur de base. Aujourd'hui, un formateur ultra célèbre va gagner 100, 1000, 10 000 fois plus qu'un formateur de base. Il y a un effet de levier, et ça va être la même chose pour les acteurs, pour les scénaristes, pour les réalisateurs. Dès que vous pouvez concentrer cette marque, dès que vous pouvez avoir un pouvoir de négociation, dès que vous pouvez être non interchangeable, dès que vous pouvez être différencié, et dès que vous pouvez avoir la relation avec le public, etc., c'est là où vous allez monter ce levier. Donc, est-ce que les formateurs en ligne peuvent se faire ubériser ? La réponse, c'est non, parce que les gens voudront se faire former chez tel formateur. Et donc, une fois que vous savez que vous avez le pouvoir de faire venir les gens chez vous et que les gens veulent se former chez vous, vous n'avez plus de raison d'être sur Udemy et de plus contrôler votre plateforme. Vous voulez contrôler votre marché, votre plateforme. Et donc, les meilleurs formateurs, ceux qui sont irremplaçables, ceux qui ont la confiance de l'audience, ceux qui ont du produit de qualité, vont vouloir rester indépendants. Ou alors, s'ils vont aller sur des plateformes comme Skillshare, par exemple, ils vont demander à se faire payer très cher en entrée. Donc aujourd'hui, sur Skillshare, qui est une plateforme, ça coûte environ $100 par mois, les gens sont un petit peu interchangeables, mais vous allez avoir des gros influenceurs, notamment des Américains comme Ali Abdal, par exemple, qui a fait une formation chez eux, qui vont dire, tiens, moi, je fais ma formation, mais vous allez me payer X% plus, je ne sais pas combien ils le prennent, mais peut-être 30 ou 50 000 dollars en entrée de gamme juste pour que je vienne chez vous. Donc, ça reproduit un petit peu un modèle de Netflix où ce qu'ils cherchent, se dit, je peux amortir ce coût sur l'ensemble de mon audience. Et ce gars-là, c'est une célébrité, je ne peux pas prendre une autre personne pour me faire une formation sur la productivité que le mec qui a 1 million d'abonnés sur YouTube sur la productivité. Donc, je vais lui payer le prix qui lui est demandé. Évidemment, ce formateur pourrait très bien aussi dire, tiens, finalement, je vais totalement faire l'impasse sur ce qu'ils cherchent, faire la formation directement chez moi et posséder l'ensemble du business et de l'audience. Et finalement, il s'en sortirait aussi bien. La question suivante nous vient de Thibaut qui nous a gentiment fait un audio.
Salut Stan, c'est Thibaut de la chaîne YouTube Guitar Plug and Play et je tenais absolument à commencer ce message par un immense merci. Ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que je t'ai découvert et que tu m'accompagnes au quotidien pour développer mon projet de cours de guitare en ligne. Je dévore tout ton contenu, que ce soit les vidéos, les podcasts, les mails, je laisse rien passer et tu m'apportes vraiment énormément. Donc merci beaucoup d'être là. Et du coup, je suis super content, tes conseils portent leurs fruits, mon projet avance bien, je viens de lancer ma deuxième formation en pré-vente pendant une semaine. Pour communiquer dessus, je me suis beaucoup servi de YouTube, de Facebook et bien sûr des emails. Et sur le point précis des emails, je me suis beaucoup questionné et j'ai eu du mal à me positionner. Une semaine, c'est court, je voulais être sûr qu'un maximum de guitaristes aient bien l'info et ne loupent pas la deadline. Et de l'autre côté, je voulais pas paraître trop intrusif et énerver les gens avec trop d'emails marketing. Du coup, j'aurais beaucoup aimé savoir comment tu te positionnes là-dessus et comment tu arrives à trouver un juste équilibre. Merci beaucoup Stan, à plus.
Je pense Thibaut que la première chose que tu peux prendre en compte ici, c'est un dicton qu'on m'a dit une fois, c'est que nous ne sommes qu'un moment dans la journée de notre client. Donc nous, on a l'impression que le monde tourne autour de notre business. On y passe tout notre temps, on a passé des heures et des heures à écrire notre séquence email. Pour les gens, on est juste un email qui passe dans leur boîte mail, qu'ils vont peut-être lire en 5-6 minutes, ou alors peut-être qu'ils ne vont même pas le lire, ils ont juste vu le titre passer. Donc quand tu as l'impression, toi, d'envoyer beaucoup d'emails aux gens, la majorité des gens les voient juste vaguement passer. Et la preuve de ça, c'est que tu peux faire des lancements où tu renvoies les mêmes emails aux mêmes personnes et les gens qui n'ont pas acheté la première fois vont acheter la deuxième fois où tu leur envoies les mêmes emails. Pourquoi ? La première fois, peut-être qu'ils ne l'ont pas lu, peut-être qu'ils les ont lus mais ils ne s'en souviennent pas, peut-être qu'ils les ont lus mais ce n'était pas le bon moment. Donc, tu peux leur envoyer les mêmes emails et cette fois-ci, ils vont acheter. Donc, les gens ne passent pas autant de temps à réfléchir à combien d'emails tu leur envoies et finalement, les emails, même si c'est légèrement intrusif, si tu envoies un email par jour pendant 7 jours, ça leur prend que quelques minutes par jour de te lire et c'est tout. Donc je pense que c'est totalement équitable et judicieux d'envoyer un email par jour pendant 7 jours si tu fais un lancement. Quand je vais faire des gros lancements, je vais envoyer un email par jour pendant parfois 10 jours ou même plus. Parfois, c'est 15 jours où j'envoie un email par jour et ça ne pose pas de problème particulier. Quelques personnes qui vont se désinscrire parce qu'ils ne sont pas intéressés par ce que je leur propose, mais ce n'est pas non plus une vague de mécontents. Je dirais même que tu peux envoyer 2 emails par jour sur certains jours, notamment le premier jour si tu veux, mais moi j'envoie toujours 2 emails le dernier jour. Il y a toujours un email le matin pour dire c'est le dernier jour et donner des arguments pour s'inscrire, et un email des dernières heures vers 18h qui est là pour le coup très court en disant bah tiens, juste au cas où vous avez loupé, ça ferme dans quelques heures, donc attendez pas. Donc tu peux très bien envoyer ces emails, un email par jour. Maintenant tu as 2 options pour le faire, qui sont 2 options qui sont bonnes, que je conseillerais d'utiliser dans différentes situations. Tu peux faire ton lancement en ce que j'appelle en opt-in, donc les gens doivent demander pour recevoir les emails, ou en opt-out, où tu envoies les emails à toute ta liste et ils doivent demander pour ne plus les recevoir. Donc l'opt-in, ça serait dire, voilà, je vais la semaine prochaine lancer une nouvelle formation sur la guitare pour faire telle chose et pour résoudre tel problème. Si ça vous intéresse, cliquez ici et je vous enverrai des emails à ce sujet. Dans ce cas-là, tu auras une liste qui est toute petite, mais qui va être extrêmement qualifiée. C'est pas rare d'avoir 10, 15, 20, 25% de taux de conversion sur une liste en opt-in. Pourquoi ? Parce que les gens se sont inscrits sur la liste d'opt-in uniquement s'ils étaient intéressés pour recevoir les emails et uniquement pour recevoir la formation, puisque généralement, je vais directement dire qu'il y aura une formation à vendre derrière. Même si j'évoque l'idée qu'il y aura de la valeur gratuite intéressante, les gens savent qu'il y a une formation, donc ils sont ouverts à acheter quelque chose et je vais avoir un très fort taux de conversion sur cette liste-là. La version opt-out, donc j'envoie l'email à toute ma newsletter et à la fin de mon email ou parfois au début de l'email, je vais dire bah, « Tenez, je vais vous envoyer un email par jour pendant X jours sur ma nouvelle formation. Si vous n'êtes pas intéressé, cliquez ici et je ne vous enverrai plus d'email au sujet de ce lancement. » Donc ici, c'est l'inverse, donc il y a beaucoup plus de gens qui vont recevoir mes emails et les lire, mais les gens qui ne sont pas intéressés peuvent se désinscrire uniquement de ce lancement sans se désinscrire de ma liste entière. Donc ça va limiter mon nombre de désinscriptions sur l'ensemble de la liste et permettre aux gens voilà, d'opt-out. Donc ça me permet ça d'être plus agressif sur les emails. Je me dis si quelqu'un est saoulé par mon email, mais il continue à m'apprécier moi, il n'est pas non plus, enfin ce que je raconte généralement l'intéresse, mais il est saoulé par ce lancement en particulier, eh bien il est très bien capable de cliquer sur « je ne suis pas intéressé par ce lancement ». Et voilà, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Et la plupart de mes lancements vont être en opt-out. Donc il y a des lancements que je fais en opt-in si je pense que c'est une offre qui est très spécifique. Par exemple, si je veux faire une offre qui s'adresse aux gens qui vendent uniquement des logiciels en ligne et que je sais que la plupart de mon audience ne vend pas de logiciels, je vais dire, bon là, si vous vendez des logiciels, cliquez ici et je vous enverrai mes dernières techniques pour vendre du logiciel. Donc, ça va permettre de segmenter uniquement les gens qui sont intéressés par le logiciel et d'envoyer agressivement 7 ou 10 emails sur le logiciel uniquement aux gens qui sont intéressés par ce sujet, sans me dire, bah, là, j'envoie des emails qui 95% des gens ne vont pas les intéresser. Généralement, je lance plutôt des produits qui vont intéresser une grande partie de ma liste. Donc, je vais les lancer en opt-out avec la possibilité pour les gens de ne plus recevoir ce lancement s'ils ne sont pas intéressés par ce produit ou ce n'est pas le bon moment ou ils trouvent que le lancement n'est pas intéressant et donc ils peuvent facilement se désinscrire. Dans les deux cas, tu donnes le contrôle à ton audience, tu leur donnes une option et s'ils ne sont pas contents, ils peuvent juste cliquer sur « je ne veux plus voir les emails » et très bien. Et si vraiment ils pensent que tu es un connard fini pour vendre quelque chose, ils peuvent se désinscrire de la liste et de toute manière, c'est des gens qui n'auraient jamais rien acheté, donc ce n'est pas une grande perte pour toi, en tout cas au niveau du business. On continue sur une question de Navin. Je développe actuellement un site web proposant du coaching en séduction pour femmes célibataires qui ont plus de 30 ans. Et mon principal appel à action sur la page d'accueil est une proposition de consultation gratuite d'une heure par téléphone avec diagnostic et proposition de solution. Le problème, c'est que je n'arrive pas à les amener à prendre des séances de coaching payantes suivies du client. Aurais-tu des conseils à donner pour persuader et amener un client à faire appel à tes services dans ce cas de figure ? Donc je pense ici, Navin, que l'analyse à faire de cette situation, c'est que ton offre ne résonne pas. Donc, il y a une approche de dire « je vais faire un coaching gratuit pour vendre ensuite du coaching payant », qui est une approche de l'échantillon. J'en ai une séance de coaching gratuit, ils vont voir que mon coaching est super, et ça ne marche pas. Ce n'est pas en faisant un échantillon que tu vas pouvoir vendre la suite. Pourquoi ? Parce que c'est trop difficile en une séance de coaching de donner les résultats que les gens attendent. C'est-à-dire, s'ils ont pensé qu'en une séance de coaching, tu vas changer leur vie, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. Donc si c'est les attentes qu'ils ont en entrée de la séance et si c'est toi ce que tu essaies de faire dans la séance, ça ne fonctionne pas. Tu mentionnes ici que tu fais un diagnostic et proposition de solution dans ton appel, mais je me demande si ce n'est pas là où tu peux améliorer ton approche du diagnostic. Donc plutôt que faire un échantillon, une séance gratuite, fais plutôt une séance qui est focalisée sur le diagnostic justement du problème. Donc, le diagnostic, tu vas le faire en plusieurs étapes. La première étape, ça va être de poser des questions de manière à comprendre le besoin, comprendre la motivation, comprendre le blocage de la personne et comprendre ce qu'ils ont déjà essayé dans ton domaine. Ensuite, tu vas poser des questions pour amener le client à prendre conscience de ce qu'il doit faire ensuite. Donc, tu veux réaliser une espèce d'illumination à un moment où il va se dire « Ah ouais, exactement, c'est ça. » Moi, tu veux prendre des questions en disant « Bah tenez, vous avez utilisé telle méthode, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous a bloqué? Pourquoi ? Si vous essayez ça, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça ferait avec ça ?» Tu veux l'amener à prendre conscience de ce qu'il doit faire ensuite. Et une fois que la personne a pris conscience, toi, tu veux lui présenter le plan concret. Mais la personne doit essentiellement elle-même arriver à la solution par sa propre réflexion et par ton questionnement avant que toi, tu proposes le plan. Parce que si tu proposes juste un plan, ça ne va pas connecter avec son besoin. Une fois que la personne a pris conscience de ce qu'il doit faire, tu vas proposer un plan concret à suivre pour résoudre le problème. On a l'avantage de proposer un plan. Encore une fois, ce n'est pas de lui faire comprendre, il doit déjà avoir compris la solution, c'est de lui donner l'impression qu'il y a une sensation de clarté. Il y a des étapes simples à suivre qui vont pouvoir résoudre son problème. Maintenant que tu as présenté ce plan, la quatrième étape, ça va être d'amener le client à comprendre qu'il ne va pas pouvoir suivre le plan tout seul. Il va avoir besoin d'aide. Là, souvent, c'est en faisant référence à ce qu'ils ont testé par le passé. Si moi, je peux proposer un plan de développement d'une stratégie marketing à quelqu'un, je vais leur dire, tenez, est-ce que vous avez déjà testé par le passé? Ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas implémenté? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas les bonnes connaissances? Est-ce que c'est vous n'avez pas la force, je ne sais pas, d'analyse ou la force d'écriture, etc.? Qu'est-ce qui vous manque? Et une fois que la personne a compris ce qui lui a manqué sur ses efforts jusqu'ici, tu veux lui dire, est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va changer maintenant? C'est pas en une heure que je vous ai donné toutes les réponses à toutes les questions au monde. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché pour le passé? Qu'est-ce qui vous pensez que ça va être différent maintenant? Donc, tu vas lui faire prendre conscience qu'il doit changer quelque chose et que toi, tu possèdes la solution et tu peux l'aider. Et une fois que tu as ça, tu vas lui faire une offre concrète. Tu vas lui dire, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est de faire 6 séances étalées sur 3 mois pour faire un point sur ça et pour atteindre tel objectif précis. Est-ce que ça vous intéresse? Et à ce niveau-là, la personne, en fait, tu l'as déjà vendue. Au moment où tu présentes ton offre, la personne devrait déjà être convaincue du problème qu'elle possède, de la solution potentielle, du fait qu'elle n'est pas capable d'implémenter elle-même la solution. Et là, tu proposes ton coaching comme une suite directe à ça. Et c'est cette progression-là, dans son appel, qui va permettre à la personne à ressortir avec une idée assez claire de ce que tu vas pouvoir lui apporter. Et donc ensuite, soit la personne va acheter directement sur l'appel, soit tu vas lui donner quelques jours pour se décider. Donc en follow-up, tu peux ajouter par exemple des éléments de crédibilité, tu peux ajouter de l'urgence en disant voilà, c'est une offre qui est valide que pendant 48 heures ou si vous voulez commencer ce mois-ci, il faut vous décider avant la fin de la semaine, sinon j'aurai booké tous mes créneaux pour la semaine. Donc tu peux jouer après un petit peu sur la crédibilité, la preuve sociale, l'urgence, comme dans toute une aile de vente standard, mais tu auras mis en place des grands ingrédients et tu auras compris leur vrai point de douleur dans ton appel. Finalement, on termine la FAQ d'aujourd'hui avec une question de Yann qui nous a posé une question en audio. Merci Yann pour ton audio.
Salut Stan, en te basant sur ton expertise en marketing, comment est-ce que tu imaginerais une stratégie pour inciter une audience, non pas à acheter un produit, mais à avoir une attitude éco-responsable, à faire des actions qui vont dans le sens de l'écologie? Parce que les messages gouvernementaux sont généralement orientés soit vers la sanction, soit vers la carotte, et il est force de constater que ni l'un ni l'autre ne fonctionne réellement. Tu t'y prendrais comment, toi?
Donc ici, le principal problème, c'est que quand on nous parle d'écologie, en fait, on ne nous explique jamais ce que moi, égoïstement, j'ai à en tirer. Il faut comprendre que les gens vont prendre uniquement des décisions sur ce qui va leur apporter un bénéfice égoïste. L'avantage ici, c'est que l'humain a une version assez large de ce qui peut être un bénéfice égoïste et ça implique des émotions et ça implique de l'identité. Donc je vois deux manières spécifiques d'attaquer le sujet de l'écologie du point de vue de l'émotion et du point de vue de l'identité. Le premier moyen, c'est d'attaquer sur la santé. Quand Arnold Schwarzenegger était gouverneur de Californie, c'était un gouverneur républicain. Et pourtant, il a réussi à faire passer des mesures environnementales significatives. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué aux gens que le but de ces mesures, ce n'était pas de sauver la planète de manière vague, ce n'était pas de sauver les ours blancs, c'était de diminuer les émissions de gaz polluants des voitures pour dépolluer l'air et éviter à vos enfants d'avoir des maladies respiratoires. Donc, c'est un argument de santé qui touche chaque individu et chaque personne. Et évidemment, il savait que via ces éléments-là, ça allait aider la planète. Mais ce qu'il a dit aux gens, c'est pas on va sauver la planète, c'est on va sauver vos enfants. Et donc, tous ces arguments de santé sont extrêmement forts et beaucoup des progrès les plus significatifs qu'on a fait en matière d'écologie ont été faits sur des arguments de santé. On pensait à retirer, par exemple, le plomb de l'essence. C'est fondamentalement un argument de santé, mais évidemment, ça dépollue l'atmosphère. Donc, si on vous explique juste c'est pour sauver les ours blancs, c'est pour sauver la forêt, etc., tout le monde s'en fiche. Maintenant, si vous prenez des mouvements, comme par exemple l'alimentation biologique, comme par exemple ne pas boire dans des conteneurs en plastique, comme par exemple ne pas consommer tel ou tel produit qui est mauvais pour la santé, ça va être beaucoup plus efficace. Et donc, la meilleure manière de vendre un produit écologique, c'est de dire ce produit est écologique, mais surtout, il est bon pour votre santé. Et en fait, les deux vont être souvent liés. C'est-à-dire qu'un produit qui n'est pas écologique, on se dit rarement, bah, c'est un produit qui va être bon pour la santé. Donc, comment est-ce que tu peux connecter ton argument écologique à un argument sur la santé? Et bien souvent, les deux ne sont pas totalement similaires. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très bonnes pour la santé, qui sont OK pour l'écologie, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas top. Et des trucs qui sont ultra bons pour l'écologie, mais qui n'ont aucun impact sur la santé. Et ceux-là vont être beaucoup plus difficiles à proposer. Donc, si tu prends par exemple l'exemple des pailles en plastique, c'est beaucoup plus facile de dire bah, ne buvez pas dans des pailles en plastique parce que vous allez avoir des molécules de plastique qui vont rentrer dans votre alimentation et ça va détraquer votre système hormonal, par exemple, que de dire ne buvez pas dans des pailles en plastique parce que vous allez les jeter et un phoque va les avaler. Pourquoi ? Bah parce que le phoque, on s'en fiche plus ou moins. Donc, il faut comprendre ici que sauver la planète, ce n'est pas le but en soi, en fait. Et la plupart des gens se fichent complètement des phoques ou des baleines ou des ours polaires. Le but de sauver la planète et le but final de l'écologie et auquel il faut se connecter, le besoin qu'ont les gens, c'est de sauver les humains qui sont sur la planète. Et avant tout, nous-mêmes et nos enfants. Sauver chaque individu, que chaque individu ait l'impression de dire « je vais être dans un monde plus sécurisé ». Les arguments qui vont être trop larges et qui vont dire voilà, ne roulez pas trop de voitures parce que ça fait le réchauffement climatique et donc dans le futur, il va y avoir moins de réfugiés ou plus de pollution, etc. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que c'est un truc trop large. J'ai l'impression que mon action personnelle n'a pas d'impact concret sur l'élément. Donc, la solution de tout ça, c'est soit de tout rapporter à mon environnement immédiat et à ma santé personnelle, comme l'avait fait Arnold Schwarzenegger, ou alors de trouver un moyen de connecter mon action directe à quelque chose. Donc, le sac en plastique qui va étouffer un dauphin, c'est pas trop mal parce que j'ai l'impression que le sac en plastique, directement le sac en plastique que je viens de lancer dans la rivière, va immédiatement tuer un dauphin. Donc, c'est quasiment comme si j'avais planté un dauphin. Là, c'est pas mal parce qu'il y a une image concrète. Il y a un exemple concret du mal que je vais produire. Le réchauffement climatique est beaucoup plus vague parce qu'on a du mal à expliquer exactement quelles sont les conséquences du réchauffement climatique et certainement quelles sont les conséquences pour moi de faire ce trajet en voiture plutôt que le faire en vélo. Donc, c'est un problème. Rapporter à l'environnement immédiat, rapporter à une image concrète, à une conséquence directe de ce que je vais faire, ou rapporter à la santé personnelle, c'est vraiment le plus efficace pour pousser des éléments écologiques. Même si c'est un argument qui est marginal du point de vue rationnel de l'écologie, c'est un argument qui va être efficace du point de vue émotionnel du consommateur. Ça ne couvre pas tout, mais c'est vraiment un bon point de démarrage, si c'est possible, par rapport à la cause que tu essayes de défendre. Le deuxième grand canal efficace pour pousser l'écologie, et c'est celui qui, je pense, va le mieux marcher sur le long terme, c'est le signalement de vertu. Faire de l'écologie une question identitaire qui est cool et qui vous permet de vous sentir vertueux. Évidemment, celui qui a le mieux fait ça, c'est Elon Musk avec Tesla. Tesla, c'est un truc cool, c'est un truc chic, c'est non seulement vous aider la planète, mais vous renvoyer une certaine image de vous-même. Donc, il faut prendre ici l'analogie de la religion. La religion a toujours été efficace pour contrôler le comportement d'un grand nombre de personnes par deux vecteurs majeurs. Le premier vecteur, c'est la peur d'aller en enfer et la peur de toutes les conséquences négatives que Dieu te foudroie, etc., si tu ne suis pas la religion. Donc, c'est un bénéfice personnel. C'est l'équivalent de ce qu'on disait tout à l'heure sur la santé. Donc, les questions de santé peuvent se rapprocher de, par exemple, les interdictions alimentaires qui vont se trouver dans beaucoup de religions. On va avoir des interdictions alimentaires en matière de santé. Il ne faut pas manger de l'huile de palme, il ne faut pas manger trop de sucre, il ne faut pas boire de Coca-Cola, etc. Et on va avoir des interdictions alimentaires dans le domaine de la religion. L'autre levier puissant dans la religion, c'est quand même les gens qui ne croient pas trop à l'enfer, qui ne croient pas trop que Dieu va les foudroyer. Ils ont la pression sociale. Si tout le monde autour de vous suit une certaine religion, eh bien vous allez avoir la pression sociale de suivre cette religion. Maintenant, le problème de la plupart des écolos en matière d'identité, c'est que le côté c'est une personne écolo, c'est une personne qui est chiante, c'est une personne qui est moralisateur. Et en prenant ce positionnement de on est des gens qui vous font la morale, des gens qui sont absolument pas cool, des gens à qui vous n'avez pas envie de ressembler, les écolos se tirent une balle dans le pied parce qu'ils ne peuvent pas positionner l'écologie comme quelque chose d'aspirationnel. Donc, ce genre de comportement sectaire qui est de dire ben, on est notre petite secte et on exclut tout le monde et si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes une personne qui n'a rien compris à rien, c'est bien pour créer une petite niche de fanatiques et c'est bien pour créer un bon business. Mais ça ne marche pas pour convertir une grande partie de personnes à un certain comportement. Si vous voulez convertir une grande partie de personnes à un certain comportement, vous devez faire de ce comportement quelque chose d'aspirationnel. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas envie d'être jugés négativement. Et donc, si les gens sentent que vous les jugez négativement, ils vont rejeter ces valeurs plutôt que de changer. Donc, la manière dont cette pression sociale doit fonctionner, c'est en créant quelque chose d'aspirationnel, quelque chose dont on peut être admiré en ayant certaines valeurs. Donc, il faut faire de l'écologie une valeur positive et non pas un truc négatif de vous être méchant si vous ne le faites pas. Un signe aspirationnel, un symbole de la classe supérieure. L'exemple qu'on prend ici, c'est le bronzage. Beaucoup de gens ont entendu cet exemple. Il fut un temps où, si vous étiez bronzé, c'est vous dire que vous êtes une personne qui travaille dans les champs, donc une personne de classe inférieure. Si vous étiez pâle, c'est que vous êtes une personne qui ne travaille pas dans les champs, qui est de la classe supérieure, de la noblesse, de la haute bourgeoisie. Maintenant, il fut un temps où ces choses se sont inversées. Tout le monde travaille dans les usines. Maintenant, si vous êtes pâle, vous êtes une personne qui travaille tout le temps dans l'usine. Si vous êtes bronzé, vous êtes une personne qui a le loisir d'aller en vacances dans des pays chauds et de passer beaucoup de temps à l'extérieur. Donc le bronzage, qui est en soi quelque chose d'arbitraire, qui n'a pas de valeur positive ou négative, est passé de quelque chose qui avait eu une valeur négative dans l'ancien temps à une valeur positive, disons, au XXe siècle. Parce que c'était associé de nouveau avec une classe supérieure et une classe qui avait le loisir de faire ces choses. Donc, la manière dont on va jouer sur cette question identitaire, c'est vraiment le marketing de célébrité. Les célébrités et les personnes qui vont renvoyer une image à laquelle les gens aspirent vont être extrêmement puissants dans ce domaine. Mais il ne faut pas l'utiliser pour faire la morale. Il ne faut pas l'utiliser pour dire « non, vous êtes nul ». Il faut l'utiliser pour dire « bah regardez, telle célébrité, elle se chauffe avec elle a dans sa maison des panneaux solaires. Elle se chauffe avec des énergies recyclées. Et regardez comme c'est cool de vivre proche de la nature, de vivre comme ça, sans avoir besoin de dépendre de la consommation, de manière minimaliste, sans avoir trop de possessions et sans brûler trop d'éléments. Et c'est en vendant cette image que vous allez pouvoir vendre ce lifestyle grâce à la célébrité ou grâce, par exemple, à des youtubeurs. Il y a beaucoup de youtubeurs qui vendent un peu ce lifestyle de minimaliste, ce lifestyle de « je vis sur ma ferme avec des panneaux solaires, j'ai ma propre eau, je ne consomme rien, etc. » C'est quelque chose à laquelle les gens peuvent aspirer. Ce n'est pas en faisant la morale et en disant « bah non, si vous consommez trop d'énergie, vous êtes un pourri », c'est en disant « bah regardez comme moi je suis cool en consommant peu d'énergie, en étant indépendant, en étant autonome et vous devriez faire comme moi. » Sur ce, merci d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. Si vous aimez ce type de contenu et vous avez envie d'avoir plus de contenu de ma part, je sors tous les lundis une newsletter exclusive à ma liste email où je partage mes meilleures trouvailles marketing et psychologie de la semaine. Et je fais une petite analyse marketing du style que j'aurais pu faire dans une grosse vidéo YouTube, mais en plus court à digérer. C'est un email qui prend généralement entre 5 et 8 minutes à lire et qui est envoyé tous les lundis matin. Ça s'appelle le mix du lundi et vous pouvez très facilement vous inscrire sur marketingmania.fr/mix. J'enverrai un email lundi prochain avec le mix de la semaine. Si ça vous plaît, ça vous plaît et vous êtes content, et moi aussi je suis content. Si ça vous plaît pas, il suffit de vous inscrire en un seul clic, c'est très facile. C'est marketingmania.fr/mix pour recevoir le mix du lundi, ma newsletter où je partage mes meilleures trouvailles marketing et psychologie de la semaine. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.